On dose les raquettes.
1, 2, 3.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen.
Je suis Dominique A.
Et donc Camille de Toledo.
Et tous les deux, eh bien, vous nous entraînez de l'amour à l'apocalypse.
Ping-pong. La culture sans limite.
Oh, yeah.
Et dites-nous.
La culture, ça fait grandir. Nous le savons désormais, en Californie, le temps s'arrête au-delà des plateaux de cinéma, au-delà de l'éternel instant fixé sur la pellicule, il s'arrête aussi maintenant pour les acteurs. Pour être exact, il disparaît. Une loi vient d'être promulguée par le gouverneur Jerry Brown qui autorise les acteurs à empêcher la publication de leur date de naissance sur les sites internet spécialisés comme IMDb, c'est-à-dire à être sans âge ou... L'eugénisme qu'interrogent les Allemands New Wave d'Alphaville en 1984 prend, on le sait, des proportions délirantes à Hollywood. En 2003, Martin Scorsese affirmait déjà qu'à cause de la chirurgie, certaines actrices passées 35 ans, on appréciera qu'il ne s'agisse que d'actrices, mais enfin, ne pouvaient plus exprimer la colère, ajoutant « Le jeu d'acteur est basé sur les expressions, alors pourquoi vouloir les effacer ?» Alors dans cette spirale botoxée et cette discrimination à l'âge systématisée, la riposte des acteurs et du syndicat des acteurs, la Screen Actors Guild, sera donc d'avoir obtenu la suppression de leur date de naissance. Un coup de gomme sur le réel plutôt que d'essayer de le changer, quitte à introduire un tripatouillage dangereux dans des données et un espace juridique ouvert à d'autres effacements. Camille de Toledo, dans cet essai conjoint, cet essai à six mains que vous publiez avec Alyosha Imoff et Kantuta Kiros chez Manuela Édition, c'est justement l'inverse que vous défendez dans ces potentiels du temps. C'est une action sur le réel plutôt qu'un coup de gomme.
C'est sans doute des fictions pour transformer un état du réel. Ou c'est plutôt, plus exactement, même comprendre comment le réel est pétri de fiction. Et une fois qu'on a dit ça, comprendre que, au fond, ça dépend de nos croyances. Qu'est-ce que l'on croit? En quelle fiction on veut croire? Est-ce qu'on croit en des fictions qui s'achèvent, des fictions avec des histoires qui se terminent? Vous parliez de l'apocalypse tout à l'heure. Mais justement, comment est-ce qu'on se relève de ces fictions qui nous font croire en permanence à ce qui termine, à ce monde qui termine. Et comment est-ce que ça infinit,
voilà. La fiction du jeunisme, alors, il faut une contre-fiction pour la combattre?
Quel jeunisme? Je sais pas, en fait, je suis un peu d'un naturel distrait. Donc...
Ah, vous n'écoutiez pas.
C'est Forever Young.
C'est pas grave. En plus, ouais, c'est ça. On en reparlera.
Mais Dominica, je pense qu'il est important de le dire, de l'apprendre à nos auditrices, à nos auditeurs et à Camille de Toledo. Nous sommes immortels.
Bien sûr, comme le dit très justement la chanson.
Mathilde Serrel, Martin Kenéen, Ping Pong.
Nous allons à présent nous balader dans les paysages de Dominica.
Le paysage vous tire dessus.
C'est l'aube nord qui t'espère, l'Inlandis qui t'appelle, la Sierra Nevada qui la nuit crie ton nom. Et c'est la grande bleue qui rehausse le ciel. Chacun d'eux te réclame et t'offre l'horizon. Aux choses qui ne disent rien le long du Cap Farvel, qui ne murmurent pas que les temps ont changé, ni les lumières au loin, ni la brume levée, ne diront que l'histoire a usé le soleil. On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Nous n'irons pas plus loin, te dit le capitaine. Trop d'obstacles aujourd'hui pour gagner l'horizon. Des baleines épuisées gémissent sur la grève. Leur sang couvre des bouches comme autant d'hameçons, comme autant de collines occultant l'horizon. de crêtes insensibles à la nature des plaines. Et dire que nous n'aurons même pas passé l'hiver. Et dire que nous n'aurons même pas passé l'hiver. Et dire que nous n'aurons même pas passé l'hiver. Ainsi, tout finirait.
Des paysages sauvages, celui du Cap Farvel, des sierras, des plaines et des paysages périurbains qui ne ressemblent à rien, et toujours l'océan à l'horizon, et le froid de l'hiver, une divagation cousue main par Thomas Beau dans la collection de paysages sur la carte de Tendre de Dominique A, depuis Un disque sourd, votre premier disque,
ouais.
Jusqu'à Éléor, le dernier voyage autour de votre tête et de votre cœur que vous nous proposez, Dominique A. Il se trouve que les paysages et les perceptions qu'ils suscitent sont l'une des forces motrices qui vous meuvent, qui vous émeuvent de disque en disque. Alors, quitte à parler de paysage, j'aimerais qu'on vienne un instant ou qu'on démarre avec peut-être le paysage originel, celui de Provins,
oui.
que vous avez pu chanter d'ailleurs dans Rue des Marais ou Les Terres Brunes.
Oui, tout à fait. Ouais. Bah oui, c'est le paysage, on va dire, c'est le point de départ de mon existence. Les plaines sénémarnaises, plaines briardes, l'horizon à perte de vue, les mottes de terre, les corbeaux. Voilà, c'est le quai.
Et c'est les remparts de cette cité médiévale qui isole et désole, dites-vous, mais aussi qui protège.
Ouais, bah il y avait un sentiment à la fois de cocon et en même temps un sentiment absolument d'isolement et de l'impression d'avoir perdu quelque chose qu'on n'avait pas eu aussi. Enfin, donc fallait sortir de là, mais comme plein de gens en fait, hein, ça
moi j'ai pensé à Nerval en fait.
Oui, je pensais même pas à Gérard. Hein, mais...
on est à Provins,
c'est
pas
bien
si
que vous l'appeliez Gérard. Ça dénote une certaine intimité.
Il y a des expériences comme ça où vous glissez la main contre les murs, contre les vieux remparts.
C'est vrai que maintenant c'est marrant parce que le fait d'avoir fait des chansons et d'avoir écrit des textes autour de cette enfance et de ces paysages là finalement c'est presque mythifié maintenant, c'est presque comme si je les avais pas vécus, ça les a éloignés de moi très bizarrement. Et en même temps, j'avais fait une tournée autour d'un texte que j'avais écrit, un petit livre qui s'appelle Y revenir, autour de justement l'enfance et Provins et cette expérience sénémarnaise. Et j'étais amené évidemment à mettre en scène cette expérience que j'avais eue et à en parler après avec les gens, et je sentais bien que c'était une façon pour moi c'était un espèce de bain un petit peu qui virait un peu à l'obscénité même dans le passé, et en même temps ça me permettait de m'en détacher, et ce qui était un peu le but en fait, parce qu'il y avait une espèce de nœud comme ça que je n'arrivais pas à défaire et qui s'est défait finalement. Alors que c'est vrai que maintenant quand on parle de Provins, de la Seine-et-Marne, etc., c'est là, mais en même temps je sens une vraie distance avec cette histoire là avec mon enfance en fait.
Mais au-delà du paysage originel de Provins, on l'a dit, hein, on se balade à l'horizon, on se balade dans l'océan, se balade au Groenland. Hein, vous n'êtes même pas allé, mais c'est...
Ah si, le Groenland, j'y suis allé quatre
fois. Ça vous a fait rêver, cette vision-là ? Parce qu'en fait, finalement, les paysages, on se rend compte que c'est tellement une constante dans votre travail qu'on a l'impression que tous vos textes commencent par un paysage.
Oui, c'est un peu systématique, donc je vais essayer d'échapper à ça. Non, mais c'est vrai. Hein,
c'est pas une critique.
Ah non, mais pas du tout. Non. C'est vrai que c'est comme ça. En fait, je pense que l'horizontalité de la plaine de mon enfance, finalement, je vais la rechercher ailleurs. En fait, il y a une vision un peu panoramique des chansons que j'ai. Enfin, je parle souvent des chansons quand je suis en studio, de façon c'est un peu en 35, c'est en cinémascope pour moi. Et donc, ça rejoint cette vision horizontale. Ça rejoint, je pense, la plaine d'enfance. En fait, le fait d'être autant happé, autant obsédé par les paysages maritime. Quand je parlais du quai tout à l'heure, c'est pas tout à fait une boutade, puisque je pense que c'est ça. Je suis toujours dans cette situation. Je suis sur la dune et j'observe soit la plaine, soit la mer. Et au Groenland, ce qui m'a happé, c'est aussi elle est contrariée, cette horizontalité, évidemment, il y a des reliefs, hein, mais il y a quand même cette idée d'espace et de dégagement, qui, je pense, est une espèce de chose qui me poursuit.
Mais à propos de votre 10e album, justement, Elior, c'est Pierre Lescure qui écrit « Ce qui marque le plus une personne, ce ne sont pas tant ses expériences passées que les paysages dans lesquels elle a vécu, a lu un jour Dominica ». Alors, l'avez-vous lu, cette phrase? Est-ce qu'effectivement, vous pensez que c'est ça, finalement, qui marque le plus les êtres plutôt que les situations qu'on a d'habitude de le penser?
Oui, alors je vais rendre à César ce qui est à César. C'est un mangaka, Kamimura, qui a écrit ça, qui avait fait un manga sur son enfance et sur justement la prégnance des lieux comme ça, la constitution de sa personnalité. Et oui, je crois, on parle beaucoup, on attribue beaucoup, on se réfère beaucoup à la psychologie ou à l'environnement familial pour évoquer un individu, essayer de le cerner. Mais je pense que le cadre, tout simplement, l'environnement, que ce soit minéral ou végétal, est hyper prégnant, en fait, et hyper constitutif d'une personnalité, tout autant que les relations humaines, à mon sens. Alors, c'est peut-être un fond de misanthropie chez moi qui parle, qui veut que les relations humaines ne soient pas si importantes que ça. Mais je crois vraiment ça, parce que je pense que, en tout cas, si je me réfère à ma propre expérience, j'ai l'impression que des traits de mon caractère, pour le meilleur et pour le pire, sont vraiment liés à ces paysages, aux paysages que j'ai connus et que je découvre avec le temps.
Et vous, Camille de Toledo, qui est à la fois écrivain, plasticien et vidéaste, avec ce nouvel ouvrage, donc signé avec Alyosha Imov et Kantu Takiros, Les potentiels du temps, qui est à la fois un essai qu'on pourrait qualifier d'esthétique, de philosophique et par conséquence politique. Est-ce que vous êtes attentif et sensible à la question du paysage, peut-être en ce que le paysage a toujours un point de fuite, et j'ai pensé au jardin japonais où il y a toujours un point qui est caché et qui donc reste à inventer dans le paysage.
En tout cas, ce que j'entendais de ce que disait Dominica à l'instant, c'est ce qui me touche, c'est ce rapport à l'enfance, en fait, et l'imprégnation par l'enfance. Et en l'écoutant, je me disais, moi j'ai moins un rapport géographique à l'enfance que précisément temporel. Parce que l'enfance a été en quelque sorte détruite. Moi, j'ai perdu assez violemment toute ma famille. Donc, au fond, le rapport que j'ai à ces paysages d'enfance, c'est un rapport de fuite. C'est un rapport de cavale. C'est vrai, il hante. Et il me rattrape toujours, ces paysages d'enfance. Donc voilà, mais c'est un rapport plus contrarié chez moi. C'est-à-dire que faire retour est une chose très 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 compliquée. Par contre, ce que j'entends aussi, c'est quand il va au Groenland, de redécouvrir qu'en fait, il ne fait que voir le paysage de l'enfance. J'avais écrit un texte, sur les écrivains voyageurs, mais il y a quelque temps. Et au fond, ça, c'est très beau, cette idée qu'en fait, on ne voit dans l'ailleurs toujours que ce qu'on a quitté. Enfin, ça, c'est une sorte de répétition, comme ça, c'est itératif. Et voilà. Mais moi, c'est cette tentative permanente d'habiter, on appelait ça les Luftmensch, les enfants du vent, quoi, d'habiter en l'air, suspendu. Et donc, il y a cette... D'ailleurs, c'est pour ça que ça me touche tant, en fait, sa musique. Parce qu'il y a un rapport qui est de combat à la nostalgie, c'est-à-dire qu'on sent que ça tire vers quelque chose. Et en même temps, ça lutte, c'est toujours vers les lumières. Il y a quelque chose comme ça.
Les lueurs.
Un album de Dominica.
Mais je pense qu'on en reparlera de cette question de la mélancolie, parce que c'est une question centrale de nos temps.
Mais justement, c'est vrai que cette question de la mélancolie et de cet enfant qu'il faut aller soigner, c'est ce que vous avez mis, vous, au cœur de votre travail d'écrivain. Parce que c'est vrai que je sais que vous aimez bien l'idée d'auteur au sens large, c'est-à-dire que ce soit de la composition de chansons, que ce soit finalement un roman, est-ce que c'est vraiment très important de le préciser? Vous avez quand même ces mots de Pierre Bergougnoux, je crois, qui vous ont touché sur l'idée que cette écriture, elle est toujours là pour aller soigner cet enfant qui est quelque part. C'est ce que vous mettez en exergue de votre deuxième publication. Hein. C'était, c'était au même moment qu'Eléor.
Oui, oui, regardez l'océan. Oui, c'est en fait, en exergue, il y a une phrase de Bergoglio qui dit en gros que l'adulte a pour tâche d'édifier l'enfant qu'il était et qui n'était pas en mesure de je sais plus la phrase précisément, je l'ai oublié, je suis désolé, mais qui n'était pas en mesure de mettre des mots sur ce qu'il vivait, en fait, en gros, que l'adulte est l'éclaireur de l'enfant. C'est une idée que voilà, qui est simple, mais qui me touche beaucoup, et même si on ne peut pas passer son existence à ça, il est quand même important de d'avoir de temps en temps des retours sur soi et sur cet enfant-là pour ne pas être lesté de cette nostalgie, de l'envahissement par l'envahissement de cette nostalgie, quoi, qui n'a pas lieu d'être, en plus, des fois. C'est ça le pire.
C'est l'adulte qu'on devient, s'est vu confier la tâche d'édifier, d'apaiser l'enfant qu'il avait été et qui n'avait pas compris lorsque c'était le moment de quoi il retournait.
Voilà.
Écrire serait une vocation, en ce que j'ai répondu à la voix dolente du dedans qui réclamait obstinément des comptes.
Mmh, oui.
Vous l'avez, vous, cette voix du dedans qui réclame des comptes?
Ben, je l'ai eu pas mal, oui, quand j'ai écrit ces courts textes, y revenir et regarder et l'océan. Oui, c'était, il y avait une espèce d'exigence, quoi. Et c'est pour ça que je suis passé par des textes en prose et que finalement la chanson ne suffisait plus à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais fait des chansons autobiographiques, vous les citiez, Les Terres Brunes, Rue des Marais, qui sont des chansons, voilà, qui étaient en quelque sorte l'amorce de ces texte là. Ça ne fait pas de moi un écrivain, je dis ça sans affectation.
Vous avez pu fustiger d'ailleurs, Dominica, la solitude du mot dans la prose,
oui,
le rattachement,
oui,
à la rime.
Oui, 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 parce que le mot là, est affreusement seul dans la prose. Oui, c'est ça. Mais quand on écrit les chansons, c'est tétanisant, hein, et en même temps c'est excitant, cette nudité.
Mais quand vous dites la chanson ne suffisait pas, c'est-à-dire que finalement cette notion d'auteur élargie que je posais tout à l'heure, ouais, non, finalement vous faites une distinction. Il y a un moment, il y a une nécessité de la littérature.
Oui, bah il y a un attrait énorme pour la littérature. Et puis après, c'est une question, je dirais, de format et de type d'écriture. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on ne sait plus faire rentrer les choses dans les chansons. Il y a peut-être une dimension peut-être bizarrement plus impudique dans le texte en prose qu'on peut se permettre d'avoir, en fait, parce que dans la chanson, il y a toujours une mise en scène qui est une mise à distance réelle, finalement, que quand on aborde un texte de nature autobiographique, cette distance est moins évidente.
Alors, il y a dans Eléor, votre nouvel album, Dominique A, bien sûr, la sonorité d'une Eléor qui existe, un lieu perdu dans un fjord danois,
ouais,
et vous y tenez, votre Eléor à vous, orthographié différemment,
ouais,
c'est un lieu imaginaire, alors
oui,
comme
oui,
vous avez une voix dans la tête, moi je me suis dit que vous faisiez des voyages autour de votre tête, et il y a le titre justement d'un écrit d'un romancier hongrois qui s'appelle Voyage autour de mon crâne,
ouais,
et où ce romancier raconte qu'il est assis dans un café, le café central à Budapest, et il entend partir des trains, et il se rend compte qu'il n'y a pas de gare à proximité.
Ouais.
Vous, quand vous composez des chansons et des voyages et que vous apercevez des paysages, c'est un peu ça aussi? Vous êtes assis à la table d'un café et...
Oui, il y a cette idée de oui, alors je sais pas si c'est autour de ma tête ou si c'est, mais oui, c'est un vrai à la fois ça traverse et puis en même temps c'est extérieur à soi, donc c'est vrai que, mettons, dans le cas de, vous parliez d'Eléor, la chanson à la base c'est une île danoise, et le fait de l'orthographier différemment me permet d'approprier ce nom dont j'aimais beaucoup la sonorité, qui avait un peu des consonances un peu gaéliques, un peu et qui avait presque, pour moi, tout de suite a revêtu le caractère d'un lieu un peu mythologique, fantasmé, avec cette idée finalement de passage, peut-être qu'il y a un peu cette idée du pas du Styx, mais en tout cas du fleuve du fleuve des morts, quoi. On ne sait pas trop qui parle quand je dis rejoignez-moi. C'est évidemment pas moi en tant que chanteur qui demande à l'auditeur de me rejoindre.
C'est monter sur scène, les mecs.
Démagogue.
Tout le monde debout.
On va sauter de la scène.
Un slam général, voilà. Non, c'est pas le truc. C'est vraiment. Et je sais pas. Après, je cherche pas. Et c'est ce qu'il y a de super dans la chanson. C'est qu'on n'est pas. Finalement, au bout d'un moment, je justifie des choses qui ne sont pas justifiables, quoi. Je divague et à un moment donné, il y a le plaisir du chant qui prend le dessus.
Je me sens vraiment inutile lorsque je n'écris pas. C'est un peu comme si l'écriture justifiait mon existence sur Terre. C'est du Dominica dans le texte. On parlait de Pierre Bergoglio tout à l'heure. Je vous propose de l'écouter. C'est un auteur que vous lisez abondamment dans sa définition de la littérature.
Rien n'a contribué à clarifier nos vies, comme ce qu'on appelle la littérature, c'est-à-dire littéralement l'expression appuyée sur la lettre, avec un support, le papier, et quelque chose qui laisse la trace de notre pensée, mais hors de nous, telle que soudain nous fait face, et que nous découvrons les imperfections dont elle était grevée, aussi longtemps qu'elle restait prisonnière de la nuit intérieure, de la pénombre intérieure. Et en même temps, la littérature a versé une contribution tout à fait significative au cours des choses. Bon, on est en France. Je pense que le monde n'a plus été le même à compter de l'instant où un jeune homme qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau a donné à la presse un certain nombre d'écrits, dont le premier portait, par exemple, sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. À quoi a fait suite un texte qui appelait le contrat social. Nous savons que les tout jeunes hommes qui ont fait la révolution, qui avaient entre 25 et 35 ans, avaient lu avec transport, avec larmes, les proses du citoyen de Genève. La littérature, c'est ça. Ou alors elle ne vaut pas une heure de peine.
La littérature, c'est ça, ou elle ne vaut pas une heure de peine. C'est Pierre Bergoglio qui était dans notre studio il y a quelques semaines, accompagné de Théo Gosselin pour une adaptation de Bolaño de 1666. C'était tout un programme, mais il y a cette idée donc d'une littérature qui peut changer le monde, qui peut changer la vie, qui doit, sinon elle ne vaut pas un clou. Mm-hmm. Pierre Bergoglio, c'est quelqu'un qui vous a... Qu'est-ce qui vous a fait par rapport à votre réconciliation littéraire? Parce que je sais que Dominica, vous avez fréquenté les écrits de Lovecraft, vous avez noirci des cahiers de poèmes, de textes, et puis après, il y a comme une période de rupture, et puis vous retournez à la littérature, notamment à Nantes, avec les études de lettres, etc. Qu'est-ce qui vous a touché chez Bergoglio?
La justesse de sa phrase, cette espèce de... Finalement, il y a un truc que je retrouvais quand je l'entendais parler, là, j'avais vraiment l'impression que voilà, c'était l'écriture en marche quasiment, quoi. Il y a une... Puis je pense tout simplement, alors ça peut paraître un peu, c'est un peu dangereux comme, mais il y a vraiment quelque chose de très provincial dans lequel est de très, comment dire, je viens d'une ville médiévale avec cette idée de pénombre, cette idée de vieille pierre, cette idée de mousse et de à la fois de dégoût engendré par ça et en même temps cette espèce de fascination pour ce que dégage ce genre de matière et je retrouve ça chez lui et je trouve que c'est un des écrivains comme Marie-Hélène Lafon aussi qui finalement on parle assez peu de la ruralité aussi d'aujourd'hui telle qu'elle est, enfin je lis rarement des livres aussi justes par rapport à tout ça et voilà ça me touche parce que ça rejoint aussi des comment dire, j'ai aussi évolué en Loire-Atlantique dans des hameaux. Il y a des choses que je retrouve et sur lesquelles il met des mots que je trouve d'une justesse affolante, quoi.
Camille de Toledo, à l'instant, Pierre Bergoglio évoquait notamment la parole prisonnière de la pénombre intérieure qu'il faudrait libérer. Et vous, avec vos camarades dans Les Potentiels du Temps, cet essai, vous appelez à la fonte des glaces. Et moi, j'ai pensé non pas à Bergoglio, mais à Rabelais, aux paroles dégelées dans le quart livre, où comme ça, ils arrivent dans un glacier. On est dans une matière aussi qui est chère, hein, l'Inland 6, les icebergs, la glace qui est chère à Dominique A. Rabelais, les compagnons de Gargantua arrivent dans la glace et puis ils font chauffer la glace. Et là, il y a toutes sortes de mots qui étaient enfermés, de cris, de jurons, d'explosions, des guerres anciennes qui tout d'un coup se réchauffent et leur sautent à la figure. Vous appelez à dégeler pour retrouver les mots anciens, au contraire, il faudrait bâtir de nouveaux mots ex nihilo.
Non, la glace, lorsqu'il en est question dans l'introduction au potentiel du temps, ce sont nos glaciers. C'est-à-dire que on voit progressivement aujourd'hui ce qui était il y a longtemps juste la discipline des poètes et des musiciens d'écouter le son des éléments. Quel langage est parlé par les choses. Qu'est-ce que disent les choses? Et depuis quelque temps, on voit que ce sont les scientifiques qui se sont mis à l'écoute des choses qui nous entourent, que nous, dans nos activités relativement prédatrices, on pourrait dire, l'humain cause un certain nombre de dégâts sur les choses. Et il y a dans cet appel au langage des glaces quelque chose d'extrêmement concret. C'est comment ceux qui nous entourent et qui se présentent sans voix est en fait doué d'un langage. Et peut-être que voir précisément la fonte des glaces comme langage, au lieu d'être simplement une cause de nos activités prédatrices, ça change le rapport. Vous voyez, on essaye, je sais pas, des gens comme Jean-Christophe Bailly, qui essayent précisément de se mettre à l'écoute de ces grâces animales, de cette présence des animalités, de ces vies, de ces multiples manières d'exister.
Mais vous dites qu'il ne faut pas l'écrire, il faut le traduire.
Absolument.
C'est voix de la nature.
Oui, c'est absolument. C'est le moment, le tournant. Est-ce qu'on arrive à le faire politiquement? Je ne sais pas. Il a eu lieu il y a des siècles poétiquement, puisque poétiquement et musicalement, ça fait bien des millénaires.
On entend craquer la glace.
Que les pierres parlent, que les éléments parlent, tout ça. Et puis dans la fuite hors du sacré, la modernité, la ratio, la raison, on sort de cette pensée magique par laquelle les choses parlent. Et on arrive au bout. C'est-à-dire au bout, c'est-à-dire au moment où cette ratio a tout épuisé. Et tout d'un coup, les scientifiques eux-mêmes se remettent à écouter les choses. Alors ça, c'est un tournant intéressant. Et c'est-à-dire que le scientifique rejoint le poétique, mais évidemment, comme le politique lui traîne. Lamentablement, derrière tout ça, il n'entend pas. Mais les philosophies, aujourd'hui, il y a des philosophies des choses. Et on essaye de les accueillir dans nos assemblées. Il y a eu des performances artistiques sur ces choses-là, c'est-à-dire ne plus être seulement comme on est là, des humains autour de micros. Il faudrait inviter des choses, il faudrait inviter le piano qui est derrière nous.
Mais les choses ne vivent pas, elles sont inanimées.
Les lampes qui sont là, il faudrait inviter tout ça, ce qui est dehors, vous voyez.
On les entend, je suis sûr.
On invite les esprits, nous, régulièrement, déjà.
Les esprits, c'est bien.
1, 2, 3...
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui essaye de dégeler les choses et de le traduire en mots. Avec la pensée lumineuse de nos invités Dominique A et Camille de Toledo, ça continue bientôt. Mais juste avant...
Ping Pong. La culture sans limite.
Eh bien à présent, nous vous proposons de traverser juste un détroit, une langue de mer, en chanson. Nos pas accrochés à la voix de Dominique A et aux cordes comme couvertes de givre d'une guitare jusqu'à Éléor. Éléor, morceau titre, petit phare à la lueur près de vaciller mais qui nous guide dans le vent et miroite sur la chaussée mouillée. Un appel de la forêt pour solitaires égarés dans les villes inhospitalières. Une fusée de détresse à la lumière poudrée, flamboyante et modeste comme l'amitié.
Sur la chaussée, fourmillons.
les galeries à ciel ouvert. Où vont les figurines pressées? Quand de tout vous serez lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi. Aïe. Gagnez l'autre bord, rejoignez-moi. Aélior, ville d'abandon de bord de mer, longue semaine à négocier. Oh Dieu, que ce silence rend fou. Dans la brume en pièces détachées, qu'avons-nous encore à cacher? Quand il reste si peu de nous, oh Dieu, que ce silence rend fou. Quand délibèrent nos cellules, comme alors l'air est minuscule. Un canal à traverser, rejoignez-moi. Avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi.
Une femme, comme Nerval avait ses filles du feu, on est avec une fille du froid. C'est le morceau titre donc de votre nouvel album, Dominique A, un album paru sous le label 5-7 Vagram Musique et qui sera à rejoindre en concert le 3 octobre à Brest au Cabaret Vauban et le 5 octobre au Théâtre de la Ville à Paris.
Après l'Éléor utopique de Dominique A, vous allez entrer dans la pensée potentielle de Camille de Toledo.
Ping-pong. La culture sans limite.
Nous partons des villes, des campagnes, des forêts, des lacs. Nous partons des océans, des glaciers, des montagnes, des plaines, des usines et des champs. Nous partons de la colère, de cette colère qui en nous a grandi. Nous partons d'une réalité qui refuse de se transformer. Nous partons des récits de la faim qui prolifèrent, des récits d'experts qui n'offrent que l'apocalypse ou la conservation. Nous partons de l'édifice de la peur, de ceux qui s'en emparent pour nous gouverner. Nous partons de la corruption, de l'obscénité de la richesse. Nous partons de l'arrogance de la puissance, des lois trop étroites pour les nous que nous sommes. Nous partons des ordres maintenus, des frontières reconstruites. Nous partons des discours de la consolation, des armes, de la passion des armes, de la violence. Nous partons d'un temps d'éternelle présence, d'hypnose sans lendemain. Nous partons de la nuit, de l'obscurité qui ne nous quitte plus. Nous partons de la mort, de nos obsessions pour tout ce qui finit. Nous partons des fictions, des histoires où nous nous sommes enfermés. Nous partons des données qui nous sont assénées, des chiffres qui nous sont opposés. Nous partons de la bêtise, de l'ignorance, nous partons de la soif et de la faim. Nous partons des bouts du monde, du septième continent. Nous partons des mers dépeuplées, des migrations empêchées. Nous partons de la ruine, des spéculations sur la ruine. Nous partons des croyances et des fausses questions. Nous partons d'un travestissement permanent de la vérité, de nos entêtements à vouloir devenir. Nous partons de la colère et de nos impatiences. Nous partons de l'esprit. Nous partons de ce que peuvent transformer l'esprit et le corps. Nous partons de l'humain et de la grâce animale, des espèces dont nous ne sommes qu'une forme fragile. Nous partons d'un plus vaste parlement, d'un plus grand espoir. Nous partons des vieilles catégories, des anciennes pensées, de nos aspirations à la métamorphose. Nous partons de tous les recoins de la réalité où il y a une faim, une soif de métamorphose. Nous partons du désir, de l'invention, de la résistance à la peur. Nous partons. Nous cherchons à précipiter ce départ, à nous départir.
Un manifeste, une anaphore. Au début du livre, Les potentiels du temps de Camille de Toledo, Alyosha Imov et Kantuta Kiros. C'est un manifeste donc pour partir d'une réalité qui refuse de se transformer. Camille de Toledo, ce texte qui est un essai, mais on l'a dit, qui est aussi un traité esthétique, un manifeste artiviste, une cartographie pour lire autrement le monde contemporain. Comment est-ce que vous comptez, justement, à partir de ce texte, la changer, cette réalité qui refuse de se transformer ?
Bon, c'est exactement toutes ces choses. C'est pour ça que, d'ailleurs, je serais très, très heureux que ceux qui nous écoutent s'en emparent, parce que c'est surtout une proposition. C'est-à-dire que c'est un livre de dons, de partage, de mise en partage d'une certaine idée des temps. Et Alyosha Imov et Kantuta Kiros, avec qui j'ai travaillé, et qui sont des théoriciens de l'art et bien d'autres choses encore... qui également sont cinéastes,
commissaire d'exposition,
et on a travaillé sur plusieurs expositions ensemble à Leipzig, à Berlin, eux-mêmes à Paris. Leur objet à eux, c'est qui a rejoint les miens, c'est la bataille des temps. C'est comment est-ce que les temps se disputent, comment les conceptions du temps se disputent. Pourquoi aujourd'hui on est en quelque sorte obnubilé par ces questions de fin. Et je vous passe...
Le finisme,
l'endism. Ouais, en anglais, ils ont même un mot pour ça.
Vous avez inventé un nouveau régime d'historicité, comme dit François Hartog. Hein.
Alors, ouais, voilà.
Présentisme, finisme, apocalyptisme.
Oui, mais au fond, si on y réfléchit bien, ce sont des grands mots. D'ailleurs, moi, je veux dire, je ne suis pas du tout un homme à isme. Simplement, on les...
c'est beau, les ismes, à travers...
Alors, les ismes, ceux-là, de Dominique.
Oui, ça dépend si c'est sur le paysage d'une chanson ou si c'est dans un discours. Ouais.
Mais en tout cas, c'est certain que... Je pense que, voilà, c'est ce qui s'impose à nous, un régime d'historicité. C'est-à-dire, c'est ce à quoi on est soumis sans même s'en rendre compte. C'est comme l'air qu'on respire. Donc, au fond, finalement, si on regarde la séquence des 25 dernières années, on les passe en revue. La fin de l'art, la fin des années 80, la fin de l'histoire dans les années 90, puis après il y a eu la fin du livre, puis la fin de la littérature, puis bon, la fin du politique, ça on l'attend finalement, hein, mais en tout cas, pour une autre politique sans doute.
Politisme.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est la fin du politisme, c'est sûr. Et donc, au fond, toutes ces fins, comment est-ce que... c'est comme des envoûtements. C'est comme des formes d'envoûtement, c'est comme de la sorcellerie, vous voyez. On vous répète.
Parlez des mots zombies d'ailleurs.
Moi, j'emploie souvent effectivement ces termes. Je ne sais pas si Alyosha Imhoff et Kantzakiros les emploient autant dans leur carte, et puis dans leur texte. Mais c'est vrai que c'est un mot que j'emploie parce que je trouve toujours que dans la théorie, dans les formes idéologiques, il y a toujours une part d'envoûtement, vous voyez. Et donc le livre, c'est ça. C'est au fond une invite à la bataille des temps, observer, prendre conscience de ces conceptions du temps à l'intérieur desquelles nous vivons. Et je vous dis, si j'ouvre maintenant, il y en a mille autres. Parce que nous, on vit depuis maintenant la modernité, depuis presque la notion d'histoire, la Révolution française, dans une idée du temps moderne. Il y a une flèche. Vous voyez, il y a une flèche de l'histoire. C'est très linéaire, le temps moderne. Et cette flèche a éclaté à la fin du XXe siècle. Ça a éclaté. C'est terminé, le temps linéaire. Vous voyez,
et donc, le sens de l'histoire. Et donc, pour vous, c'est une constellation.
Voilà.
C'est morcelé.
Mais surtout, si on, je ne sais pas éclaté, si on pense au,
délinéarisé, justement,
aux conceptions du temps en Amérique latine, les temps indigènes, les temps mythiques, ce sont des temps circulaires. Mmh. Les temps religieux, ce sont des temps du rituel.
C'est précisément, Camille de Toledo.
Il y a tous ces temps qui se débattent.
On entend la dimension religieuse.
Il faut se désenvoûter aussi.
Voilà, l'envoûtement, la bataille des temps. Vous évoquez ces temps circulaires des cosmogonies et des récits des peuples qui ne sont pas occidentaux et qui ne sont pas pris dans notre discours de la science ou discours du capitalisme actuel. Et puis vous parlez, tout à l'heure vous disiez le mot espoir, vous parlez d'espérance. Alors l'espérance, c'est la seconde vertu théologale, hein, c'est l'attente de la grâce de Dieu en ce monde et puis de la gloire éternelle dans l'autre. Mais alors vous, est-ce que vous pouvez nous définir, nous dire un peu quelle est cette espérance collective que vous proposez, peut-être par-delà Dieu et le diable?
Non, ça c'est certainement par-delà Dieu et le diable. Bon, simplement, juste un petit rappel sur ces temps qui nous occupent et qui ces temps obscurs. C'est
et désespérés.
Il suffit simplement de se tenir au courant des sorties cinématographiques pour voir qu'on est toujours au jour d'avant, au jour d'après. Vous voyez, ça tombe, hein, ça s'apocalypse. Donc on est toujours un peu là.
Et d'ailleurs, dans la version de Hieronymus Bosch, vous aviez imaginé ce truc génial, un type qui va revendiquer des apocalypses comme un attentat.
Oui, il y avait ce personnage qui essayait d'aller au-delà précisément de l'apocalypse, c'est-à-dire de donner un sens. Là, on trouvait déjà la langue des glaciers, la langue des faits divers, la langue des accidents. Pourquoi ça arrive? Et donc, qu'est-ce qui parle dans ce « ça arrive » ? Mais comment on échappe, en fait, à ce temps apocalyptique ? Alors, une première piste qui va dans votre sens, c'est que le temps religieux, l'apocalypse, il ouvre, en fait, dans la tradition juive, en tout cas, qui, moi, m'importe, disons, biographiquement, au temps messianique. Alors donc, comme on n'attend plus le Messie, évidemment.
C'est clair.
Non, c'est justement.
Et vous êtes
non,
trois.
Non. Mais justement, donc, un des temps qui s'oppose aux temps apocalyptiques, c'est un temps de l'attente. Mais aussi la raison pour laquelle on s'est lancé dans le livre avec Alyosha et Kantuta, la raison pour laquelle on s'est lancé, c'est qu'au fond, nous, dans notre mélancolie européenne, on ne voit pas grand-chose de ce qui se prépare, de ce qui se dessine déjà. Et il y a en fait, si je pense aux transhumanistes californiens, à nos amis, eux, ils ont une idée très précise de ce qui va advenir. Et là, on a un vrai messianisme avec un objectif, un telos, l'idée qu'on va pouvoir libérer l'homme de la mort, l'algorithme, l'intelligence artificielle.
Dans la Silicon Valley, tous les milliardaires qui courent après cette vie éternelle.
Voilà.
Le téléchargement du cerveau.
Voilà, donc... Voilà, donc tous ces temps-là sont en quelque sorte en lutte. Il y a ceux qui déjà ont notre script à venir, ceux qui déjà écrivent l'avenir sur un mode très fini. Et la proposition potentielle, c'est plutôt d'être précisément dans ce temps ouvert à ces multiplicités de temporalité, de récits.
Alors c'est vrai que vous résumez, on va dire, les grands récits, les grandes fictions qui nous entourent. Donc il y a la fiction de la fin de l'histoire, la fiction de la démocratie représentative, du capitalisme financier, du choc des civilisations, et j'en passe. Vous appelez une sorte de contre-fiction. En gros, parlez-nous de ces fictions que vous appelez, qui sont dans l'enclosure, c'est-à-dire de ces fictions qui nous réduisent, qui nous rétrécissent l'horizon, et de ces fiction du coup de l'ouverture, Quelles sont-elles, justement? Et comment est-ce qu'on combat? Comment est-ce qu'on crée un imaginaire, un contre-imaginaire, une contre-fiction?
Non, mais je crois que c'est aussi quelque chose qui a lieu quotidiennement. C'est pour ça qu'au fond, ce livre est adressé aux esprits, pas seulement aux esprits, disons, immatériels, mais à ceux qui nous écoutent, à tous les esprits. C'est-à-dire que déjà prendre conscience des fictions dans lesquelles nous nous sommes empêtrés. Bon. Et effectivement, ce sont des récits. La guerre des civilisations est un récit, c'est une fiction. Elle est alimentée par un certain nombre de choses. Donc, comment est-ce que déjà on est attentif? Et on parlait de l'enfance tout à l'heure. Au fond, comment on échappe à cette obsession de ce qui veut finir, de ces politiques de finisme, c'est en étant précisément attentif à ce qui veut naître. Et il y a, mais déjà, dans le présent, une infinité de choses qui travaillent, enfin qui naissent, qui sont en train de naître et qui déplacent. Je pourrais vous parler simplement moi de la fascination personnelle que j'ai pour les exoplanètes. L'idée que il y a ou les mêmes en ce moment les travaux sur le Big Bang, le fait nous sommes cernés par de l'infini et nos politiques humaines sont strictement finies.
Voilà. Nous sommes aussi des créatures finies, nous ne sommes pas pur esprit et il me semble Dominique A que vous nos finitudes et notre mélancolie, qui va jusqu'à l'ivresse, pour reprendre des termes employés par Camille de Toledo avec ses camarades dans Les Potentiels du Temps, cette imminence de la fin, chez vous, c'est une force motrice. C'est un aiguillon, oui, un bon sûr. Chanteur est un chanteur mort, pour reprendre une de vos expressions.
Ah bah oui. L'éternité. On écrit pour le chanteur mort qu'on va devenir.
Et puis la bonne fiction, c'est celle qui est plus forte que le temps.
Oui, mais je pense aussi que le retour sur soi, la nostalgie, la mélancolie, c'est aussi une façon finalement d'échapper au finisme. C'est une bonne façon, hein, c'est un échappatoire. Je me demandais en fait, vous n'évoquez pas le millénarisme en fait. Est-ce que justement ces fictions que vous évoquiez, elles sont pas liées tout simplement à un calendrier presque, à un millénarisme qui ne veut pas finir? Je sais pas, hein, je dis peut-être une ânerie, mais...
Bah, moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis pas tout à fait d'accord avec la lecture que vous avez de travail de Dominica, parce que, en fait, ça va vers les lueurs, c'est toujours, on en parlait tout
oui,
à l'heure.
Vers l'immortalité.
C'est-à-dire, et les lueurs, il y a un thème...
Vers les lueurs, c'est le neuvième album.
J'ai l'impression que la fin est motrice, elle nous bouscule, elle nous oblige
oui, mais ça,
à agir.
Je pense que c'est, je dirais que c'est un marronnier artistique, presque. Enfin, on est dans
cette... Memento Mori, oui, qui vous...
Voilà,
c'est à faire un pas.
Voilà. C'est vraiment ça, c'est le memento mori permanent. Chaque chanson parle un petit peu de ça, enfin, de façon plus ou moins consciente et plus ou moins assumée.
Il me semble que Camille de Toledo voudrait qu'on ne parle plus de ça.
Non, c'est pas ce qui est dit. D'ailleurs, il y a une phrase dans le livre où il est dit de passer de la mélancolie de ce qui a été à la mélancolie de ce qui pourrait être. Et la mélancolie de ce qui pourrait être est quelque chose de bien autre. Et au fond, la mélancolie. Moi, j'ai écrit des livres qui sont parfois éminemment mélancoliques. Un essai sur la tristesse européenne. Il y a une ligne de fuite qui est la mélancolie de ce qui pourrait être, mais c'est toujours travaillé par la mélancolie de ce qui a été. Après, simplement, je crois que là où ça devient quelque chose qui est l'ivresse mélancolique devient, un problème, c'est lorsque ça devient une politique, parce que la politique de ce qui a été. Ça, c'est là où on est aujourd'hui. C'est l'idée de reconstruire à l'identique du passé. C'est tous ces scripts très, 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 très réactionnaires qui sont en marche. Donc, cette transformation. J'ai pensé en venant à l'émission à quelqu'un dont nous sommes tous trois, quand tout à Alyosha et moi, en fait, dans le sillon, les compagnons, qui est Georges Didier Huberman. Qui travaille, il vient de publier un livre qui s'appelle...
de l'art, commissaire d'exposition, il y a son soulèvement actuellement.
Qui va faire une exposition, ça s'appelle Soulèvement, et le dernier livre, qui est Peuple en larmes, Peuple en armes. Et je pourrais vous rappeler, cette jonction de la mélancolie, ou de la tristesse, du chagrin avec une action, c'est un point de notre temps, du moment. Le moment, j'ai fait des commentaires sur Boisizi, celui
qui s'est immolé au début de la révolution.
Voilà, geste de désespoir qui provoque, en fait, un geste collectif d'insurrection. Donc, ces choses-là ne sont pas clivées. Il n'y a pas un pour l'avenir seulement.
Mais justement, ce qui est intéressant, quand vous aviez déjà fait apparaître, on va dire, des frontières immatérielles, des choses qui étaient déjà des enclosures, mais dont on n'avait pas encore conscience, il fallait simplement toucher les limites pour les sentir, c'était dans Archimondain, Joli Punk. On touchait les parois, en testant les limites, soudain, on se rendait compte justement de cette enclosure et de cette finitude qu'on nous impose. Est-ce que là, finalement, on ne retrouve pas cette logique qu'il y avait pu avoir au début des années 2000 de ce que les gens appelaient l'alter mondial ? C'est-à-dire qu'on retourne dans cette pensée à quelque chose qui n'est plus de l'anti, mais qui est de l'autre, qui est l'autre proposition, l'alternative, et de refavoriser ce qui avait été proposé à ce moment-là.
Bien sûr, moi j'ai pu suivre tout ça. De toute façon, depuis la chute du mur de Berlin, il y a cette soif collective de d'inventer des autres possibles, parce que, et bien sûr, le livre Les potentiels du temps, il est dressé contre un ordre collectif qui est construit autour de la dette, de la finitude, de l'empêchement.
Il y a un vrai fatalisme, c'est clair, de penser, oui, bien sûr.
La réalité est surprotégée, elle est surconstruite, c'est une forteresse. Donc, ces efforts, depuis l'insurrection zapatiste, on ne peut pas infiniment y être sourd. Ce n'est pas possible.
Ou alors, précisément, c'est que... Dominica, oui, il y avait un autre discours qui a existé au XXe siècle et qui s'est tu avec la chute du mur de Berlin, c'est le discours communiste, le discours marxiste. Vous avez grandi en écoutant de la chanson française, mais aussi les chœurs de l'Armée Rouge.
Oui, j'ai même assisté à un concert des chœurs de l'Armée Rouge avec mes parents, oui, je me souviens de ça.
Et vous avez eu la chance d'avoir des parents communistes.
Oui.
Ça souffle encore en vous, et peut-être même dans Eleor, dans ce nouveau projet, cette...
Il y a une chanson qui fait référence, en fait, qui s'appelle Une autre vie, sur l'album, qui fait référence, finalement, de façon indirecte, à un livre de Svetlana Alexeyevitch, La fin de l'homme rouge, où elle parle, finalement, de... C'est pas nostalgie, ce qu'on appelait nostalgie, la nostalgie du, mais c'est tout simplement ce constat que on abandonne une vie pour une autre, un rêve pour un autre, et finalement on est toujours dans une autre vie, et avec toujours cette espèce d'effet non pas de regret, mais de d'insatisfaction face par rapport à une époque. C'est-à-dire que il est question beaucoup dans son livre de réunions clandestines dans des cuisines où les gens se cachent dans les cuisines, rideaux baissés, pour parler, pour refaire le monde, pour envisager une autre vie. Et après, il est question de après la chute du mur, tout des témoignages sur la façon dont les gens ont vécu finalement le passage à l'économie de marché. Je ne sais pas si je rejoins votre question, mais moi je rebondis un peu sur ce que disait Camille de Toledo. J'ai l'impression qu'effectivement, en fait, il y a une telle occultation du politique par rapport à des initiatives, des fois qui sont des initiatives, on va dire, de type de la société civile, qu'on a cette sensation finalement que les histoires sont écrites, quoi. Et cette occultation, elle est alimentée par le discours médiatique, par la façon dont on nous présente l'actualité, évidemment. On s'aperçoit, en fait, de toute façon, qu'il y a une forme d'impuissance politique qui peut être tout à fait débattue et combattue par des initiatives de type d'initiatives prises par la société civile.
Et donc, il y a une dimension politique dans vos chansons ?
Ah, ça, c'est
des fictions ouvertes, vos chansons.
Oui, enfin, il y a toujours, de toute façon, ça infuse. Ça infuse, c'est-à-dire le rapport au monde, au bout d'un moment, même dans une chanson d'amour, il y a cette idée, de toute façon, de... Une histoire de couple, c'est une histoire aussi politique, en quelque sorte. Hein.
Et comment ?
Il y a des mots des éléments de langage, comme on dit, communs à une histoire amoureuse et à la politique.
Et quand vous dites une chanson, c'est quelqu'un qui avance dans la nuit. C'est ça que vous essayez de faire en écrivant, d'avancer dans la nuit, comme Camille de Toledo essaie de donner de quoi lire, de quoi traverser les ténèbres actuelles.
Vous savez, on a dû me poser la question une fois pour vous.
C'est quoi une bonne chanson? Et vous avez répondu ça.
J'ai répondu ça. Voilà, c'était ce qui m'est venu et c'est pourquoi pas.
Aujourd'hui,
c'est une définition possible.
Aujourd'hui, vous pensez plus que c'est
avancer
dans la nuit.
Si, c'est bien, c'est bien trouvé, c'est bien dit.
Ça peut faire progresser les choses. Est-ce que vous avez comme ça comme on le disait tout à l'heure avec Pierre Bergougnou en l'écoutant sur ce fantasme d'une littérature qui, voilà, les citoyens qui ont fait la révolution lisaient le citoyen Rousseau. Est-ce que vous avez un fantasme, vous, comme ça, de cette chanson qui peut changer les choses?
changer les choses, c'est délicat parce que ça renvoie à une histoire de la chanson, ça renvoie à des contextes, c'est-à-dire que la chanson qui change le monde, la chanson accompagne ou accompagne les changements sociétaux ou alors anticipe éventuellement, mais elle n'est pas déclencheuse à mon sens. Donc tout ce qu'on peut espérer, c'est de tout simplement
la jeunesse n'emmerde plus le Front National.
Une partie de la jeunesse, hélas, non, ne l'emmerde pas du tout. mais il y a possibilité d'y aller, pas forcément frontalement, justement. La chanson que vous évoquez, La jeunesse emmerde le Front National, qui était l'hymne des berruriers noirs dans les années 80. Voilà, c'est une façon d'aller frontalement. Et finalement, ça n'a pas de portée, puisqu'on se rassure, c'est un truc qui tient chaud, mais ça n'a pas d'effet. Je pense plus, pour moi, la chanson doit être plus insidieuse. Elle peut faire passer des choses, des idées, mais de façon peut-être moins frontale et de façon plus efficace, en fait.
Surtout, ce que j'aimerais, en fait, simplement ajouter à cette chose, c'est que la déception permanente, elle est liée, en fait, à l'objectif qui a été fixé. C'est-à-dire, là, on a une discussion qui est très l'acmé révolutionnaire, le temps où tout va transformer. Ce qui est dit dans Les potentiels du temps, et d'autres l'ont dit avant nous, Gilles Deleuze ou autres, c'est lorsqu'on écoute des récits mineurs, des récits interstitiels, des choses qui sont plus petites, des plus petits objets. Alors ça a lieu, ça change. C'est ça cette proposition potentielle aussi. Être attentif à ce qui advient, à ce qui devient, à ce qui veut naître, à ce qui se veut se transformer. Et qui se transforme déjà.
Sans tambour, ni trompette. Ping-pong. C'est déjà fini.
Merci beaucoup à tous deux, ou je peux dire à tous les quatre, puisque vous signez Les potentiels du temps, Camille de Toledo, art et politique chez Manuela Édition, avec Alyosha Imov et Kantuta Kiros. Et vous, Dominique A, vous nous proposez de rejoindre Eleor, cette commune libre, cette ZAD, c'est chez Label 5-7,
micro-état, mais oui.
Vagram Musique, cette utopie, et vous serez donc en concert lundi 3 octobre à Brest, au Cabaret Vauban, ainsi qu'au Théâtre de la Ville le mercredi 5 octobre et à Paris. Et puis il y a votre récit dont on a parlé chez Stock, hein. Oui, Regardez l'océan, et puis il y a un disque double caché dans l'interstice.
Oui, enfin, je voulais évoquer une autre participation. Justement, vous parliez de la ZAD, une journée de mobilisation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes le 8. Donc incessamment sous peu, je veux participer.
Et les nuits seront blanches non seulement à Notre-Dame-des-Landes, mais aussi sur les berges de la Seine, puisque France Culture vous invite rive droite, entre le Pont Neuf et le Pont au Change, demain soir, de 21h à minuit, à assister à des concerts et écouter des paroles d'artistes et qui sait, des paroles interstitielles.
Le ping-pong, c'est une petite chose radiophonique qui s'écoute en équipe et pour l'éternité et un jour sur les internets. En podcast, on remercie tout le monde, en particulier Thibaut Germez et Élise Leu.